Radio Kapi.
Le journal à la présentation Patience Ngalula Mbombo.
Des actes de pillage et de torture attribués à un groupe de militaires et de Wazalendo qualifiés d'indisciplinés ont plongé la ville d'Uvira dans une psychose généralisée depuis ce jeudi. Pendant ce temps, les rebelles M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur progression dans la région. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa appelle la population kinoise à l'apaisement et à éviter de tomber dans l'intoxication ainsi que la stigmatisation. Daniel Bumba assure que la situation sécuritaire de Kinshasa est calme et que toutes les mesures sont prises pour qu'elle le demeure. L'invité de ce journal est Miran Moulumba, coordonnateur national de l'Association nationale des victimes au Congo. Il revient sur les lancements par sa structure de l'opération des collectes des preuves des exactions commises à l'est de la RDC, répondant ainsi à l'appel du bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui enquête sur les violences survenues à Goma et ses environs. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal part du nord du sud Kivu, où depuis ce jeudi, la ville d'Uvira est plongée dans une psychose généralisée. Selon plusieurs sources, des actes de pillage et des tortures attribués à un groupe de militaires et des Wazalendo, qualifiés d'indisciplinés, sèment la terreur parmi la population. Pendant ce temps, les rebelles M23 et leurs alliés rwandais poursuivent leur progression. Hier soir, ils ont pris le contrôle de la cité de Sangé, située à environ 30 km de la ville d'Uvira. Rachel Kiesse.
Après la chute de la ville de Bukavu le week-end dernier, plusieurs agglomérations stratégiques sont tombées en quelques jours. En moins de 48 heures, Kamanyola et Sangé sont passées sous le contrôle des rebelles. Désormais, Uvira est directement menacée par la progression du M23. Mais au-delà du front militaire, la ville est en proie à une montée alarmante des violences. Pillages, tortures et exactions en tout genre. Ce matin, l'évêché d'Uvira a été saccagé, le prêtre et l'évêque ont été violentés et dépouillés de leurs biens, notamment de leur téléphone et de leur argent. Des magasins, des boutiques et même des maisons d'habitation ont été pris pour cible par des groupes armés non contrôlés. Face à cette situation chaotique, les autorités locales et les acteurs de la société civile avouent être dépassés par les événements.
Et puis, des centaines de personnes déplacées à cause de la guerre au sud Kivu affluent dans la ville des Kalemi par bateau ces derniers jours. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Tanganyika a mis sur pied un contrôle rigoureux à chaque débarquement de passagers au port des Kalemi pour lutter contre toute éventuelle infiltration de l'ennemi. On écoute le ministre provincial de Transport et porte-parole du gouvernement du Tanganyika, Barnabé Kantala, est au micro de Paulin Munanga.
Les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Ils sont postés au port de Kalemi. Chaque bateau qui arrive par rapport à la situation d'Uvira, par rapport à la situation du sud Kivu en général, nous avons reçu, c'est vrai, beaucoup de citoyens congolais qui ont décidé de trouver refuge au niveau de Kalemi ou du Tanganyika. Donc on n'a pas de nombre exact, mais sinon je peux vous donner une estimation. Nous recevons une moyenne de 300-400 passagers. Alors il y a des mesures de sécurité vraiment mises en place pour que nous puissions identifier tout celui qui pénètre le sol. Vous savez, tous les Congolais ont des cartes d'identification, des cartes d'électeurs. Tous les Congolais ont différents types de documents qu'ils présentent au port. Alors le contrôle est sérieusement organisé et minutieux pour que nous ne puissions pas être infiltrés.
Et au cours de ce contrôle, il y a des citoyens qui ont été interpellés?
Il y a certaines personnes peut-être qui ont voyagé sans, n'est-ce pas, documents. Et il faudra une procédure pour les identifier. Interpeller signifie peut-être les accuser directement, mais ce n'est pas ça. Ils se présentent au port, ils descendent de bateau et il y a une procédure qui est mise en place pour que nous puissions identifier qui entre sur le sol de la province de Tanganyika.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, une accalmie s'observe ce jeudi matin sur toutes les lignes des fronts. C'est après deux jours d'affrontement entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les FRDC appuyés par les Wazalendo. Des combats qui se sont déroulés mardi et mercredi à Alimbongo, Ndoluma, Mambasa, Lumbango, Kasima et Katondi à une trentaine de kilomètres de Lubero centre. L'armée a réussi à repousser l'ennemi sur plusieurs lignes des fronts. Cependant, elle appelle les soldats qui ont fui les combats et qui errent dans l'Uber au centre à regagner au plus vite les fronts pour défendre la patrie. Le colonel Mac Azukai, porte-parole des opérations militaires dans les Grands Nord, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Je demande à tous les militaires qui ont quitté les lignes de front et qui errent dans les centres de Lubero et de ses environs de regagner au plus vite possible les lignes de front où se trouve leur commandant. Un soldat ne s'isole pas de ses compagnons, un soldat ne fuit pas seul, mais il se déplace avec ses compagnons et ses chefs. Nous avons frappé l'ennemi, nous avions reçu l'appui des avions de guerre qui nous ont appuyés et les opérations se poursuivent. L'ennemi a été chassé. Et pourquoi quitter les lignes de front? L'ennemi était venu nous provoquer. Nous devons endurer et poursuivre avec les opérations. Tu viens de très loin, de l'Équateur, de Kasaï, de Bandundu, de la province orientale que nous appelons Tchopo. Tu viens de Ouélé, de Katanga. Tu es là au service de la nation. Nous devons continuer avec les opérations. Nous devons défendre la patrie, protéger notre population et ses biens.
Restons dans le territoire de Lubero cette fois pour parler du naufrage d'une pirogue taxi dans la nuit de mardi à mercredi sur les lacs Édouard, faisant au moins 22 morts et 2 personnes portées disparues. Selon la société civile locale, la pirogue en provenance de l'enclave de pêche de Vichumbi s'est dirigée vers Kiavinyonge lorsque les drames s'est produit. La majorité des victimes étaient des déplacés. André Kitenge pour les détails.
Le naufrage s'est produit au niveau de l'enclave de pêche de Lunyasenge dans le territoire de Beni, à environ 80 km de la ville de Butembo. Selon la société civile de Kiavinyonge, les conditions météorologiques défavorables et la surcharge sont à la base de ce drame. Delphine Malikani, le président de la société civile de Kiavinyonge, parle jusque-là d'un bilan provisoire de 22 personnes mortes, dont des femmes et des enfants, 8 rescapés et 2 autres disparus. La majorité des victimes étaient des déplacés qui ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 et les décès à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La même source précise que les victimes ont pris la pirogue pour traverser Vichumbi dans le parc national de Virunga, une zone occupée par le M23 où le trafic lacustre était suspendu depuis le mois de mars 2024. Les 8 rescapés secourus par des pêcheurs de Lunyasenge ont été conduits dans un centre de santé de la place pour des soins. Une opération de repêchage des corps des victimes et des disparus par des volontaires a été lancée mercredi, indique la société civile locale. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, la situation humanitaire reste préoccupante pour environ 10 000 personnes composées essentiellement de déplacés des Djaïba et des habitants proches de Fataki dans le territoire de Djougou. Elles n'ont pas de vivres ni des médicaments. Leurs champs sont également occupés par le milicien de la Codeco, groupe armé qui menace ceux qui tentent d'y accéder. Conséquence, la vie est devenue intenable pour ces sinistrés qui sollicitent une aide d'urgence. Reportage d'Isaac Remoyope rendu par Ezekiel Mouzalia.
Les déplacés du site de Djaïba et les habitants des localités voisines, notamment Lodja, Lindou et Fataki, qui ont été la cible d'attaque de la milice Codeco, ne sont pas libres de tout mouvement au-delà des 2 km. Certains se faufilent pendant la journée dans leur maison pour chercher des vivres récoltés avant le drame. Ceux qui se rendent au champ sont tués ou menacés de mort, ce qui rend la vie difficile à ces milliers de personnes. L'une d'elles témoigne.
Pendant la journée, ils attendent vers les Rekwela, là où il y a les chats. Vous venez directement, vous sautez sur vous, vous êtes tué. Vous ne pouvez pas directement descendre là où il y a l'eau là-bas. La rivière là-bas, vous ne pouvez pas venir. C'est peut-être très compliqué. Il faut leur patrouille pendant la nuit. Déjà à partir de 20h, 21h, partout, j'ai eu ici. C'est quoi de qui contrôle pendant la nuit?
Ces déplacés déplorent le pillage de leurs produits des champs par les miliciens. Ils lancent une alerte pour une aide d'urgence.
Ils ont chargé leur véhicule là, qui évacue les produits des châtels, lesquels maïs, ces assassins sont toujours quelque part là. On ne peut pas avancer. Si tu avances d'ici un kilomètre, tu te racontes avec les gens là. Qui ne vont pas te laisser. C'est ça qui donne la peur à la population de Djaïba.
Des centaines de familles ont fui à Bounia, Igabarrière ou Lopa, où elles se débrouillent pour la survie. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les habitants de Kinshasa appelaient à l'apaisement et à éviter de tomber dans l'intoxication ainsi que la stigmatisation. L'appel est du gouverneur de la ville ce mercredi à l'issue d'une réunion de sécurité avec le vice-premier ministre de l'Intérieur ainsi que des services du secteur. Daniel Bumba assure que la situation sécuritaire de Kinshasa est calme et que toutes les mesures sont prises pour qu'elle le demeure. Concernant le braquage enregistré depuis quelques semaines, le gouverneur annonce que des enquêtes se poursuivent, mais qu'un premier groupe est déjà aux arrêts. Suivez cet extrait du message du gouverneur de Kinshasa choisi par Babel Mpongo Masimango.
Il s'est propagé beaucoup de faux bruits pour instaurer la psychose, l'intox. Nous profitons de l'occasion pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Kinshasa est stable. Nonobstant quelques faits bénins, de braquages, des infiltrations non autrement identifiées, les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement, à vaquer librement à leur occupation. Toutes les solutions sécuritaires sont prises. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures. Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Ce sont des faits bénins. Bien que on a observé quelques jours les braquages. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Nous allons vous les présenter d'ici peu. Nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
304 délinquants communément appelés Kuluna ont été transférés hier mercredi vers la prison de Luzumu au Congo central. Selon les ministères de l'Intérieur, cette opération s'inscrit dans le cadre de la double opération Ndobo et Zéro Kuluna. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette opération de transfèrement est menée concomitamment par le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice et Garde des Sceaux. Ces transferts s'inscrit dans une stratégie plus large visant à désengorger les cellules de la police, souvent surpeuplées, et à prévenir des éventuelles évasions. Certains détenus transférés sont des repris de justice, tandis que d'autres attendent encore leur jugement dans le cadre des audiences foraines organisées par la justice militaire. Ce coup de filet a été mené dans le cadre des opérations d'Obo et Zéro Kuluna, mis en place par le gouvernement pour éradiquer les phénomènes Kuluna. Pour sa part, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a insisté sur la fermeté du gouvernement face à ces fléaux. Il a également indiqué que le gouvernement souminois a fait de la sécurité des citoyens une de ses priorités absolues, rappelant que d'autres actions vont suivre pour restaurer l'ordre public à Kinshasa comme dans les grandes villes du pays. De leur côté, le défenseur des droits de l'homme estime que la solution ne peut être uniquement répressive et plaide pour des programmes de réinsertion afin d'empêcher les jeunes de replonger dans la criminalité.
Dès ce 25 février, il n'y aura plus de restrictions de circuler à sens unique sur certaines artères de la ville-province de Kinshasa, telles que décidées par le gouvernement congolais en octobre dernier. C'est ce qui ressort d'une réunion présidée mercredi 19 février par le ministre de l'Intérieur en compagnie du ministre des Transports, du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le représentant de la police et des services techniques du ministère des Transports, dont la Commission nationale de prévention routière, CNPR. Billy Ivan Lutumba.
Il s'agit d'une suspension provisoire de la mesure de circulation alternée sur les avenues Nguma, Tourisme, Mondjiba et Poilou dès le 25 février prochain. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic dans la capitale, précise un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. À cet effet, une commission du gouvernement central est mise en place pour appuyer l'administration provinciale dans la gestion de la mobilité urbaine. L'objectif étant de mettre en œuvre des solutions structurelles et durable afin de désengorger les principaux axes routiers de la ville, peut-on lire. La suspension de la circulation alternée constitue une mesure transitoire en attendant des solutions plus globales pour répondre aux défis de mobilité de la capitale. Signalons que cette mesure de suspension de la circulation alternée sur certaines artères de Kinshasa survient alors que déjà sur terrain, les restrictions à sens unique ne sont plus observées depuis quelques semaines déjà au grand désarroi de certains usagers, notamment sur avenue Nguma et Tourisme.
Actualité internationale.
L'Égypte et l'Espagne refusent tout exil des Palestiniens de Gaza. En visite officielle à Madrid, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a signé plusieurs protocoles d'entente destinés à renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Espagne. Cette visite a été marquée par une conférence de presse conjointe avec le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, au cours de laquelle les deux dirigeants ont exprimé leur rejet ferme d'une proposition controversée du président américain Donald Trump visant à dépeupler la bande de Gaza.
L'invité.
L'Association nationale des victimes au Congo, ANVC, a lancé il y a 3 semaines la collecte de preuves des exactions commises dans l'est du pays. Invité des Radio Okapi, les présidents de cette structure, Mira Mulumba, affirme mener cette opération sur appel du bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI qui enquête sur les violences survenues à Goma et ses environs. Mira Mulumba s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Mira Mulumba.
Bonjour.
L'Association nationale des victimes du Congo a annoncé vouloir apporter des preuves des atrocités commises dans l'est du pays pour répondre à l'appel de la Cour pénale internationale. En ces jours, où en êtes-vous avec cette opération?
Merci. Comme vous le savez exactement, que ça fait pratiquement plusieurs semaines que la partie orientale de la République démocratique du Congo vit dans une insécurité laquelle introduise plusieurs victimes des violations systématiques des droits de l'homme, mais pourquoi pas aussi du droit international humanitaire. Voilà pourquoi l'ANVC s'est livrée, ça fait pratiquement plusieurs semaines, à pouvoir documenter, à pouvoir collecter le différents témoignages, certaines vidéos de toutes ces exactions qui ont été perpétrées dans cette partie de la République avec l'entrée. Donc il était plus important pour nous de pouvoir répondre à l'appel du bureau du procureur parce que vous savez que l'Association nationale de victimes étant une structure, une organisation qui fait la promotion, la défense et la protection des droits des victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Tous les éléments importants, notamment les témoignages, notamment les vidéos, et notamment les différents massacres perpétrés comme récemment dans cette partie du pays, dans le Nord Kivu et à Bukavu. Nous enregistrons plus de 500 morts et plus de 30 femmes victimes de viol et plus de 500 hommes torturés qui ont subi des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Ça, c'est juste à Bukavu ou vous parlez du Nord et du Sud Kivu?
Je parle de Nord Kivu et de Sud Kivu. Il y a eu toutes ces exactions et toutes ces violations massives du droit de l'homme.
Depuis l'entrée des rebelles du M23 dans ces deux provinces, la NVC a eu déjà à recenser combien de cas de violations du droit de l'homme?
Nous avons recensé, pour bien le dire, plusieurs cas de violations systématiques du droit de l'homme. Il y a eu des tueries, il y a eu des viols, il y a eu des tortures, il y a eu des pillages. Et aussi, tous ces actes de cruauté ont produit comme conséquence le déplacement massif de plusieurs compatriotes. Mais vous imaginez, on peut même que certains compatriotes qui étaient dans les différents camps, allez-y, dans tout ce camp, il n'y a presque rien. On a incendié tout ce camp. Cette population vit dans des conditions pitoyables. Quoi? L'ANVC, saluant exactement la procédure initiée par le bureau du procureur pour devoir œuvrer ensemble avec notre organisation, parce que vous le savez exactement que la justice joue un rôle préventif.
Comment vous procédez pour avoir ces témoignages auprès des victimes ou familles des victimes?
C'est vrai actuellement que plusieurs victimes vivent dans un état de psychose, mais cela n'exclut pas au regard de droits reconnus aux victimes de pouvoir dénoncer. Donc nous avons eu à réunir une poignée d'individus parce que nous venons de vous rappeler que nous avons déposé une liste de témoins, donc des témoins qui ont subi les faits. Donc ce sont ces témoins que nous avons appelés de manière isolée, de peur qu'ils ne puissent pas encore être victimisés, bien entendu, de la prestation de ce mouvement de M23 et de l'AFC. Donc ils ont été isolés, nous avons recueilli bien entendu leurs témoignages, et tous ces éléments nous ont permis à pouvoir étoffer notre dossier et d'opposer bien entendu et à cette instance judiciaire internationale.
L'ANVC bénéficie-t-elle des moyens de sa politique pour bien mener cette opération?
Il est vrai que le moment est très très compliqué, mais parce qu'il s'agit bien entendu de notre cause personnelle, nous n'avons pas de choix si ce n'est que nous surpasser. Nous sommes déterminés par rapport aux maigres moyens dont nous disposons, dans l'espoir que nous puissions fournir tout ce qu'il faut pour que demain les responsabilités soient bien établies, que les auteurs intellectuels répondent vigoureusement de leurs actes, et qu'il soit expié conformément aux normes internationales et que toutes les victimes de la partie orientale de notre pays soient bien entendu remises dans l'ordre.
Avez-vous quelques difficultés dans la mise en œuvre de ce travail, des collectes?
Conformément à la nouvelle loi portant protection des défenseurs du droit de l'homme, il est plus important pour que la communauté internationale, pourquoi pas aussi d'autres organisations qui font la promotion et la défense du droit de l'homme, puissent y veiller scrupuleusement pour que le droit reconnu aux défenseurs du droit de l'homme soit suffisamment protégé, parce que à l'heure actuelle, dans la partie orientale de notre pays,
Nous vivons dans une psychose au point que certains droits reconnus sont bafoués dans la partie orientale de notre pays.
Monsieur Mira Moulumba, nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité sur Radio Kapi. Dieudonné Nyanga Sawanyangas a été à la mise en onde. Richard Junior Kamungambo Atimankinda l'a supervisé et coordonné à la présentation. Patience Ngalulambombo. À vous tous, merci de nous avoir écoutés.